100% d'Europe, Léa Lisa Westerhoff.
Et si plutôt que de recycler, on essayait tout simplement de moins jeter? Pas évident sur un continent européen où chaque seconde, 8000 kilos de déchets partent à la poubelle. À Vienne, la municipalité tente de changer la donne. Dans la capitale autrichienne, le service de collecte et de traitement des ordures ne fait pas que vider les poubelles des habitants. Il s'occupe aussi d'en sauver certains objets pour les revendre ensuite dans une boutique d'occasion un peu chic. Céline Béal s'y est rendue pour nous.
Même en pleine semaine, la boutique 48 est animée. Des jeunes, des vieux, des gens qui ont l'air d'avoir les moyens, d'autres peut-être moins. L'endroit tient son nom du numéro du service municipal qui le gère, le service municipal 48, celui qui a pour rôle de gérer les déchets à Vienne. Pourtant, point de déchets en vue ici, que des marchandises bien ordonnées sur des étagères et dans des vitrines. Dans ce vaste magasin d'occasion, l'ambiance est plutôt proprette. C'est ce qui le caractérise, selon Ulrike Folk, chef de la communication.
Nous avons fait attention à ce qu'il n'y ait pas de caisses dans lesquelles il faille farfouiller ou de choses dans ce genre. Il n'y a pas de poussière, on est dans l'ambiance d'un magasin moderne avec différents rayons pour les instruments de musique, les articles de sport. En ce moment, on a les skis et les articles pour les sports d'hiver. Nous avons un rayon vaisselle, un rayon jouet. Nous faisons attention à avoir une présentation qui montre la valeur des objets. Les visiteurs voient que c'est quelque chose de particulier.
Devant un présentoir, Manuela observe avec une amie une grosse décoration de Noël. Est-ce qu'elle irait bien dans son salon ? Manuela, assistante de vie dans une maison de retraite, a déjà un gros cylindre blanc en porcelaine sous le bras.
C'est une colonne dans laquelle on peut mettre des fleurs pour la décoration. Il y a écrit 10 euros. Mais je vois qu'il y a des petites fêlures là et là. On va voir si je peux encore négocier un peu le prix. On n'est pas obligé de toujours tout acheter neuf. Les choses peuvent avoir une nouvelle vie dans d'autres appartements. Je me dis qu'on achète déjà tellement pour jeter qu'on peut l'éviter. On peut aussi faire un geste pour l'environnement.
Ulrike Folk explique que son service a en effet lancé ce magasin dans un souci de réduction des déchets.
Le principe de base de la branche des déchets, c'est d'éviter d'en produire quand c'est possible. Si on évite de produire des ordures, on n'a plus besoin de s'en occuper ensuite. C'est comme ça qu'on économise le plus de ressources et d'énergie.
La plupart des marchandises ici proviennent des 16 déchetteries de la ville. À l'entrée de chacune d'elles se trouve un conteneur avec des étagères. Les habitants sont invités à y déposer leurs possessions dont ils ne veulent plus. Que la collecte se fasse dans des déchetteries, c'est très stratégique.
Les gens y vont pour se débarrasser de leurs ordures. Mais quand ils voient ce conteneur, peut-être qu'ils y réfléchissent à deux fois. Est-ce que c'est vraiment un rebut dont je me débarrasse là? Ou est-ce que cela n'a plus de valeur seulement pour moi? C'est juste moi qui ne l'utilise plus.
Le service 48 hérite par ce biais de 100 tonnes d'objets divers par mois. Mais tous ne sont pas revendus, seulement ceux qui sont en bon état. Une entreprise solidaire vérifie que les produits électroniques fonctionnent bien et ceux-ci sont garantis un an. Le magasin mise sur la qualité pour attirer un large public et donc sensibiliser le plus grand nombre à la réduction des déchets. La recette semble fonctionner, la responsable évoque 700 à 900 visiteurs par jour. Le retraité Wilfried est un habitué.
Je cherche les bonnes affaires. J'ai déjà acheté une radio avec prise stéréo pour 10 euros. Je l'ai déjà depuis plus d'un an et la qualité est parfaite. Et il y avait un an de garantie. 10 euros, vraiment, c'est donné. Franchement, on n'a pas toujours besoin d'acheter du neuf. Ça va très bien comme ça.
Aujourd'hui, il espère dénicher un couteau électrique et peut-être une pendule de cuisine. S'il trouve son bonheur, la somme qu'il payera ne finira pas dans la poche de la municipalité. Les bénéfices dégagés par la boutique sont en effet reversés à un refuge pour animaux.
La Suède, c'est le pays européen qui recycle le plus. 40% de son plastique, par exemple, est transformé. C'est peu, mais c'est le record actuellement en Europe. Résultat, ce pays importe désormais des déchets brûlés ensuite pour produire de l'électricité et du chauffage urbain. En 2015, le Royaume scandinave a ainsi fait venir près d'1,5 million de tonnes de poubelles d'Angleterre. Direction Malmö, dans le sud du pays, à l'usine d'incinération Suzave. C'est le reportage d'Anne-Françoise Hiver.
Les ballots de déchets arrivent en bateau depuis l'Angleterre. Ils sont empilés sur une presqu'île artificielle en bordure de la centrale Suzave avant d'être chargés dans des camions et conduits jusqu'aux énormes fourneaux de l'usine d'incinération. Chaque année, 500 000 tonnes de déchets y sont brûlées. 10% environ viennent de l'étranger. Rustan Nilsson, porte-parole des questions environnementales, explique.
Nous utilisons un intermédiaire qui, lui, cherche des clients. On lui dit de quelle capacité on dispose et nous regardons ce qu'ils nous proposent. On fait des prélèvements et des analyses. Il faut savoir que nous sommes en position de force sur le marché, car l'Europe n'a pas suffisamment d'usines de recyclage et de capacités d'incinération.
Les Suédois peuvent donc dicter leurs conditions, la qualité des déchets, mais aussi le prix, car le service est payant, environ 50 euros la tonne. Chez Suzave, comme dans les autres centrales d'incinération du pays, l'énergie est récupérée pour produire de l'électricité et de la chaleur qui alimente le réseau de chauffage urbain. À Malmö, 100 000 foyers sont chauffés grâce aux déchets incinérés. Mais à mesure que le recyclage progresse, la quantité de déchets diminue. La Suède a donc besoin des importations ou bien elle devrait trouver d'autres sources d'énergie plus polluantes. Suzave a fait le calcul. L'importation de déchets l'an passé a permis de réduire les émissions de 80 000 tonnes en équivalent CO2 et ce en incluant le méthane qui aurait été dégagé par les déchets s'ils avaient été enfouis en Angleterre. Sur la cheminée de l'usine, des filtres ont été installés pour limiter la pollution. Seul bémol, en s'occupant des problèmes des autres, la Suède ne les encourage pas à faire mieux dans le domaine du recyclage ou du traitement des déchets.
Et parmi les secteurs les plus destructeurs de l'environnement, il y a l'industrie textile. L'utilisation entre autres de substances chimiques, de teintures et d'énormes quantités d'eau pour fabriquer et nettoyer les fibres en font la deuxième industrie la plus polluante après le pétrole. Dans ce secteur aussi, le recyclage est donc devenu un enjeu. Au Portugal, une entreprise a décidé très tôt de se positionner sur ce marché. Sacia, c'est son nom, recycle chaque mois 900 tonnes de fibres industrielles. Marilyn Darcy.
Sacia est une pionnière. Cette entreprise de Famalicão, au nord du Portugal, a été fondée en 1952. Et depuis ses débuts, elle recycle les résidus des filatures très nombreuses dans la vallée du Havre où se concentre l'industrie textile, mais aussi le coton des anciennes colonies africaines. Les fondateurs de Sacia appliquaient déjà les principes de l'économie circulaire. Ils récupéraient dans les usines alentour tout ce qui n'avait pas été utilisé, fils et coton, les lavaient et les traitaient pour en faire de nouveaux fils revendus eux-mêmes aux usines. Aujourd'hui, le principe est le même, mais la technique et les matières premières ont bien changé. Sacia récupère non pas les vêtements usagés, mais toutes les matières qui permettent de fabriquer une pièce de tissu. L'entreprise possède ainsi à la défibrisation, c'est-à-dire au compostage, de ces éléments de textile qui entrent dans la confection de produits en tout genre, nappes, mouchoirs, rideaux et aussi vêtements. Une fois ces déchets transformés, ils deviendront du rembourrage pour les sièges de voiture ou des panneaux d'isolant pour la construction, et même des fils, des dizaines d'usages qui trouvent acquéreurs essentiellement hors du Portugal, en Europe, mais aussi en Afrique du Sud ou en Angola. Par ailleurs, la réintroduction de matériaux dans le circuit économique rend moins dépendant le secteur textile portugais qui importe la majorité de sa matière première. Dans la vallée du textile, la vallée du Havre, les entreprises de collecte de déchets ont désormais des conteneurs spéciaux destinés à recevoir les restes de fabrication textile.
Et quand on parle de textile, comment ne pas penser à l'Italie? Dans ce pays, le secteur du luxe est confronté à un dilemme. Que faire des sacs à main, chaussures et vêtements invendus? L'année dernière, des images de manteaux Burberry à 1500 euros livrés aux flammes avaient choqué l'opinion publique. Depuis, la marque anglaise s'est engagée à ne plus brûler ses invendus, mais à les recycler. Qu'en est-il en Italie, Franceline Beretti? Le secteur du luxe s'est-il lui aussi mis à recycler?
Le sujet est tabou, personne ne veut en parler ouvertement, mais une fois le micro coupé, la plupart des employés du luxe italien avouent, ils détruisent. Cependant, les vêtements et les accessoires ne partent pas directement dans l'incinérateur. Une fois la saison passée, ils filent dans les outlets. Dans ces magasins, les vieilles collections sont bradées, mais elles ne s'éternisent pas. Après un an, elles sont retirées des rayons et passent en vente privée. Des ventes réservées aux employés de la maison ou à des clients sélectionnés. Enfin, les vêtements sont rassemblés une dernière fois pour, finalement, être détruits. Plus les marques détruisent, plus elles perdent de l'argent. Elles font donc tout pour réduire au maximum les invendus. Selon les saisons, ils représentent entre 5 et 15% de la production.
Pourquoi ne pas donner ces vêtements ou les recycler ?
Donner, c'est se tirer une balle dans le pied. Personne ne voudra acheter de chaussures à 1200 euros si elles peuvent se trouver gratuitement. Le luxe doit être cher. Recycler, c'est extrêmement compliqué. Certaines marques italiennes, comme Bottega Veneta, ont décidé de ne plus détruire leurs invendus et de les stocker. Donc, elles cherchent une solution pour recycler. Mais pour le moment, c'est l'impasse. Imaginez un sac ou une chaussure. Pour récupérer les matériaux, cuir, métal, plastique, il faut démonter le produit. Cela doit se faire manuellement. Imaginez le coût en main-d'œuvre pour récupérer de petits bouts de cuir déjà coupés, déjà cousus, aucun intérêt économiquement. Et si l'image d'un vêtement hors de prix, brûlé, est choquante, elle n'est que le symbole de notre système économique fondé sur l'abondance et le gaspillage.
Gratter, empiler, démonter et reconstruire au milieu des gravats. Voilà l'univers dans lequel Marianne Thewen se sent chez elle. Cette artiste néerlandaise qui crée à partir de maisons en ruine. Aux dernières rencontres photographiques d'Arles, elle exposait ainsi sa 8e Destroyed House, maison détruite. Deux sculptures, deux constructions réalisées à partir des débris d'un ancien garage destiné à devenir un cinéma et dont il ne restait que les murs extérieurs. Pendant des mois, elle a trié et réassemblé ses gravats avant que cette installation monumentale ne soit elle aussi détruite après avoir été photographiée. Frédéric Lebel est allé rencontrer Marianne Thewen chez elle à Amsterdam.
Hi Frédéric.
Hi Marianne.
De son grand studio situé au 6e étage, Marianne Thewen a une vue incroyable sur un des lacs d'Amsterdam. La campagne à la ville. En cette mi-novembre, la lumière est superbe. On se croirait face à un tableau, forcément. Avant de se lancer dans ces immenses installations, la sculptrice a été peintre pendant 10 ans. Un choix qu'elle avait fait presque par défaut. Petite silhouette, regard bleu perçant. Marianne marche avec une canne. Elle a eu la polio enfant. Elle a donc longtemps différé ses projets qui sont aussi très physiques.
C'est épuisant, mais je travaille avec un assistant et des aides qui font tout ce que je ne peux pas faire. Ils portent les choses lourdes, ils m'amènent les matériaux et moi j'assemble. Je crée les empilements, personne ne fait ça à ma place. Et en faisant cela, je trouve aussi beaucoup d'énergie, même si c'est fatigant. C'est un peu comme de la méditation. Vous devez être comme un moine, juste assembler et être dans l'instant présent.
Just be in the moment, and then I love it.
3 à 5 mois en moyenne pour compiler, trier, assembler du placoplâtre, des briques, des pierres, des gravats, du bois, autant de strates qui composent des chapelles, des labyrinthes ou des espaces mentaux, comme elle les appelle.
J'empile, j'assemble tous ces débris. Je n'utilise aucune colle. La fragilité est essentielle dans mon travail. On y parle de cet équilibre constant entre se relever, tomber.
Marianne Thewen aime bien convoquer Dostoïevski et la lutte constante chez les humains entre ces forces opposées, construire, détruire, l'ordre, le chaos. Lorsqu'elle se saisit d'un bâtiment, elle consulte longuement les propriétaires et maîtres d'ouvrage. Elle peut alors faire tomber les planchers et découper les murs à l'intérieur de l'ossature du bâtiment.
Mes installations sont une sorte de monde parallèle. Le monde extérieur n'y pénètre pas.
Ses premières commandes ont été celles de sociétés d'habitat à loyer modéré dans plusieurs villes hollandaises. Les immeubles allaient être détruits et se posait alors la question de la mémoire enfermée dans ces murs.
À Amsterdam, les collectifs de logements sociaux cherchaient une manière, un moment pour dire au revoir à ces immeubles, à ces gens, à leurs clients qui habitaient dans cet immeuble vieux de 80-90 ans. C'est pour ça qu'ils m'ont cherché, qu'ils ont investi de l'argent et qu'ils s'occupent de toutes les autorisations.
Depuis, l'artiste s'est rendue en Russie, en Afrique du Sud, à Gaza, en France et bientôt au Japon, même si elle refuse de s'inscrire dans une démarche trop sociale ou politique.
Quand je vais à Krasnoïarsk, Il n'y a plus de goulag. Mais il y a des gens qui ont vécu près du camp, dont les proches sont morts au goulag. Quand je vais en Afrique du Sud, il n'y a plus d'esclavage, mais je rencontre des descendants d'esclaves. Je veux me confronter et confronter le public aux conditions les plus extrêmes de la vie humaine. Gaza, c'est juste un exemple. La maison aurait pu être en Tchétchénie, en Syrie ou même en Afrique du Sud. À vous de choisir. Mais bon, c'était à Gaza. C'était une maison de famille, une famille du Hamas. Elle a été la cible d'un bombardement et un des fils, le seul qui était là, a été tué. Le père a décidé de reconstruire une nouvelle maison, mais il a compris que mon travail était une façon de se remémorer ce qui était arrivé.
Une sculpture en forme d'adieu et au final des photos, car les sculptures de Marianne Toywen ne durent qu'un temps. De son travail, il ne reste alors que ces immenses tirages presque abstraits.
En fait, je suis toujours le peintre que j'étais. Mon héritage reste la peinture flamande du XVIIe siècle. Tout est une question de couleur, de texture. Et dans mon travail, il y a beaucoup de strates différentes. Vous pouvez y voir, y trouver ce que vous voulez.
Sa prochaine œuvre l'entraînera à Kyoto. Elle travaillera dans des maisons traditionnelles japonaises rachetées par des investisseurs chinois et vouées à la destruction.
Gardez vos yeux fermés et écoutez.
C'est vendredi, l'heure de la chronique musique de Vincent Théval. Bonjour Vincent.
Bonjour Léa Lisa.
Votre coup de cœur cette semaine, c'est le quatuor italien Indianizer et son nouvel album Aya Puma.
Et oui, encore une histoire de frontières brouillées et d'artistes affranchis des genres et des styles avec le quatuor italien Indianizer qui vient de publier un deuxième album fidèle aux explorations soniques qui ont séduit dès ses débuts en 2018. Sur Nadir, ces quatre garçons originaires de Turin semblent faire virevolter des passeports où se presseraient quantité de visas indiens, sud-américains ou africains. Un goût pour la cumbia, la salsa ou les franges les plus aventureuses et répétitives du rock qui traduit leur amour pour la danse, la trance et autres vapeurs psychédéliques. Et pour décrire cette musique, les membres d'Indianizer ont même forgé un terme, le Psycho Tropical Beat, soit des ambiances propices à tous les voyages où se bousculent des mots anglais, français, espagnol ou tout simplement inventés.
Accent d'Europe, c'est fini pour aujourd'hui. On se quitte en musique avec Indianizer. À la réalisation, Françoise Grelot. Pour nous écouter, nous retrouver, rendez-vous sur notre site internet rfi.fr à la rubrique podcast. À lundi.